un bureau à Berlin, Montréal, Boston, aux alentours de 380 employés qui soutiennent cette mission-là. Puis on est assez chanceux avec une belle croissance là, où à chaque année, on a une belle feuille de route de doubler au minimum là, à chaque année depuis déjà plusieurs années.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 174e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques pour terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. La discipline et le sens du devoir sont des qualités que tout chef d'entreprise se doit de posséder dans son coffre à outils. Maintenant, force est d'admettre que certains sont prêts à s'investir davantage que d'autres afin d'atteindre leur objectif ou même leur rêve. J'ai donc l'immense honneur aujourd'hui de recevoir Étienne Lacroix, président et fondateur de Vention, une organisation qui a pour mission de rendre plus facile et accessible l'automatisation industrielle. Étienne, qui est passé par les grandes écoles du monde des affaires comme GE Electric ou encore McKinsey Company, a décidé après deux passages en entreprise que le temps était venu pour lui de voler de ses propres ailes. Avec plus de 150 millions de dollars de levée en financement, Étienne et son équipe ont l'ambition de révolutionner l'industrie dans laquelle ils opèrent et pour y arriver, ils ne laissent rien au hasard. Vous apprendrez d'ailleurs dans l'épisode que Étienne travaille tous les jours de 8h à 18h avant de recommencer en soirée de 20h à minuit. Comme dirait Elon Musk, personne n'a jamais changé le monde en travaillant 35 heures par semaine. Sans plus attendre, ma discussion avec Étienne Lacroix. Étienne Lacroix, tu es le président et cofondateur de la 45e société en plus forte croissance au Canada, l'organisation Vention. Fondée en 2016, l'entreprise qui a pour objectif de rendre l'automatisation industrielle plus facile et accessible continue de doubler année après année et est en voie d'atteindre les 100 millions de chiffre d'affaires annuels d'ici les 12 prochains mois. Étienne Lacroix, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, plaisir d'être là, Antoine.
Et puis, Étienne, avant de rentrer dans la conversation du jour, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer plus en détail qui est Vention et qu'est-ce que vous faites?
Absolument. Vention est un startup qui a comme mission de démocratiser l'automatisation industrielle et donc de permettre aux entreprises manufacturières, ce que j'appelle à haute mixité, de pouvoir concevoir, automatiser, déployer des équipements automatisés, cellules robots, et ainsi de suite, par eux-mêmes, à l'aide principalement d'une plateforme en ligne. Fait qu'aujourd'hui, on est bien chanceux. On a démarré l'entreprise en 2016, comme tu as mentionné. On est à 6 ans dans l'aventure. Environ 3000 clients. Un bureau à Berlin, Montréal, Boston, aux alentours de 380 employés qui soutiennent cette mission-là. Puis on est assez chanceux avec une belle croissance là, où à chaque année, on a une belle feuille de route de doubler au minimum là, à chaque année depuis déjà plusieurs années. Voilà.
Puis bon, ce que j'ai été capable de voir, Étienne, c'est qu'avant cette aventure, tu as eu quelques expériences sur le marché du travail dans des organisations assez grandioses. Tu as travaillé pour GE comme premier emploi, premier gros emploi, on pourrait dire, dans ta carrière. Puis de ce que j'ai pu lire, je crois que tu as intégré l'organisation, peut-être ça s'est fait parallèlement, là, après avoir lu le livre « Straight from the Gut » de l'ancien CEO de GE, Jack Welch, très connu dans le monde des affaires. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Est-ce que c'est comme ça que tu as intégré l'organisation?
Exactement. En fait, c'est drôle, hein, parce que ce livre-là, Jack Welch, Straight from the Gut, serait un peu dérisoire si on lirait le livre à ce moment-ci dans le contexte du 22e siècle. Mais pour moi, comme jeune ingénieur très dynamique, ce livre-là a changé ma vie, où j'ai compris même l'essence des systèmes capitalistes, là, pas en termes de structure de société. Et ça m'a fait réaliser à quel point GE et mon cerveau étaient assez similaires. Et la façon dont j'aimais allouer des ressources, bâtir des choses de façon avec une certaine dose de performance. Et à partir de ce moment-là, j'ai débuté ma carrière pour trouver la bonne GE Business pour moi. J'étais à peu près à mi-chemin dans mon baccalauréat. Et écoute, j'ai appliqué à les quelques GE Business qui sont présentes au Québec, de Bromont jusqu'à GE Lumination, la chaîne où j'ai travaillé. Et j'ai trouvé le bon mentor qui, dans le processus d'entrevue, m'a carrément dit, elle était « You're gonna cry for your mom » en me parlant de l'intensité que j'allais subir. Et j'ai grosso modo dit « Bring it on ». Et ça a été 4 années formidables de ma vie où Jim m'a vraiment montré à ce qu'est un manager qui gère l'ambiguïté, qui bâtit des entreprises. Et écoute, c'était, je pourrais en parler longtemps, mais c'était une expérience phénoménale dans ma vie qui a vraiment établi les fondations de comment j'opère aujourd'hui en termes de execution first, risk management, don't make excuses, et voilà. Fait que je pense que ça a été un bagage de connaissances et de mindset assez pertinent, surtout dans le monde du start-up aujourd'hui où il y a énormément d'ambiguïté à gérer avec des niveaux de performance atteints assez élevés et peu ou pas de place à l'excuse du tout.
As-tu des anecdotes pour nous de comment tout ça s'est déroulé là-bas et également peut-être si tu peux nous dire spécifiquement quel était ton rôle?
Écoute, je me suis joint comme intern, en fait, j'étais dans faisais partie de l'équipe qui lançait des nouveaux produits très rapidement. J'ai continué à travailler à GE pendant mon bac à temps plein. Fait que je travaillais environ 35 heures semaine chez GE durant la semaine et je faisais mes cours à l'ETS en parallèle. Je suis devenu un workaholic fini dans ces années-là. J'ai pris un plaisir fou à lancer des nouveaux produits qui étaient mon long-term life passion. Très rapidement après avoir terminé mon baccalauréat, j'ai été en charge de lancer des lumières jaunes, des traffic signals jaunes qui avaient une spécificité parce que la couleur jaune est plus dure à maintenir. Et donc, j'étais responsable pour une petite équipe d'ingénierie, environ 4 à 8 ingénieurs, où à 24 ans, j'avais l'opportunité de gérer un budget d'environ demi-million. C'était pas très gros, mais un premier projet. Et d'amener ces projets-là au marché dans des temps assez court, tu sais, en termes de program manager, ceux qui lancent des nouveaux produits, qui est un rôle merveilleux en soi, tu essaies de maintenir l'équilibre entre le budget, la performance de ton produit et la qualité. Et tu pick 2 out of 3. Tu peux pas avoir les 3. Et c'est un équilibre qui est impossible à atteindre, mais c'est des rôles où on se développe énormément. Écoute, hein, j'avais plusieurs dictons, mais un, c'est si tu finis ton projet et t'as pas rough some feather, you didn't push the machine hard enough. On a lancé, tous mes produits ont été lancés on time, on quality, on budget. À ce moment-là, j'étais jeune et vigoureux. J'étais un leader un peu plus polarisant que je le suis aujourd'hui. Le balancier avait tourné trop à gauche, mais j'ai appris plein de belles leçons de vie. Fait que grosso modo, j'ai lancé des produits pendant environ 4 ans de ma vie, des tout simples comme des lumières jaunes jusqu'aux trucs plus complexes où on faisait pousser les tomates 2 fois plus vite en optimisant la longueur d'onde de photosynthèse avec les longueurs d'onde pour optimiser la photosynthèse. Projet beaucoup plus costaud de 2 millions de dollars et GE était une organisation incroyable à promouvoir des single leaders. Donc, plus on réussit des projets, plus tu te retrouves avec des projets intéressants. Et plus tu ne réussis pas, plus tu te retrouves avec des projets dérisoires. Bref,
c'est très mériteux, très orienté à la méritocratie.
Et ça allait, à ce moment-là où j'étais, comme je dis, jeune et vigoureux, j'ai absorbé cette culture-là à bras ouverts. Aujourd'hui, avec les années, évidemment, on est un peu plus polished, on est un peu plus nuancé, mais bref, ça a été incroyable. Voilà. Fait que G était très bon pour s'assurer qu'on a toujours un plan A, B, C. Quand je partais un produit, si j'avais un fournisseur à risque, j'avais toujours 2 suppliers que je faisais compétitionner un contre l'autre. Je faisais compétitionner des ingénieurs un contre l'autre pour m'assurer que mes timelines soient respectées. Quand FedEx était en retard sur mes shipments, j'allais monter pratiquement jusqu'au niveau VP pour me plaindre dans l'organisation pour faire passer mes shipments avant les autres. J'ai appris à être désagréable et agressif dans tous mes projets. Et ça m'a super bien servi. Encore là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancé, beaucoup plus polished. Mais d'avoir vécu cette intensité-là me donne plein d'outils aujourd'hui qui n'existent pas dans la majorité de la tête des gens.
Puis j'ai l'impression que ça part du leadership de Jack Welch, parce qu'à t'entendre, c'est pas mal ça qu'on est capable de comprendre quand on lit ses livres, quand on voit ses entrevues. Il était également un leader polarisant, lui, là.
Également polarisant. En fait, je connais pas beaucoup de leaders qui le sont pas, en fait. Malheureusement, on bâtit rien de fabuleux avec du consensus, là. Donc, il y a Jack Welch, assez polarisant, mais pour ceux qui aimaient cet environnement-là de high achieving, c'est un environnement incroyable, on se développe super rapidement. Chez Venture, on s'amuse à dire qu'on est un uplifting environment for high achiever. On est très ouvert sur le fait que Venture n'est pas pour tout le monde. On n'est pas un work-life balance company. Mais par contre, pour les gens qui ont des goûts de vrais défis professionnels, d'avoir une progression de carrière rapide, de jouer avec des technologies qui sont disponibles nulle part ailleurs. C'est un environnement super excitant pour les gens qui ont le goût de cette expérience-là dans leur vie. Et comme on engage des gens qui ont le goût de faire ça, ça fait une culture qui est excessivement forte, dynamique, souriante, mais avec entourée de gens qui sont justement qui ont le goût de vivre la même chose. Voilà.
Et on va en parler brièvement on va en parler longtemps de Venture, mais avant toute chose, j'aimerais parler brièvement de ton deuxième emploi qui a été chez McKinsey & Company, une des plus grandes firmes de consultation au monde. Je pense que c'est 30 000 personnes présentement qui travaillent chez McKinsey au moment où on se parle. Tu as fait 3 ans et demi chez GE, on te retrouve par la suite chez McKinsey et tu disais dans un entretien, c'était assez fascinant, que GE m'a appris à exécuter et McKinsey m'a appris à penser. Peux-tu nous dire comment ça s'est déroulé là-bas et pour quelle raison tu utilisais cette phrase-là pour décrire les deux organisations?
C'est vrai, c'est une... j'aurais jamais pensé être consultant moi-même, spécialement venant de GE. Si j'aurais suggéré à mon patron chez GE d'engager des consultants, il m'aurait dit « Let me know his name, I'm gonna fire you and hire him ». La culture de consultant chez GE est un peu perçue que comme manager, t'es pas équipé pour faire ton rôle. Donc, il y avait pas de consultant chez GE. Et me retrouver consultant moi-même, c'est un peu ironique. Ceci étant, j'ai adoré l'organisation. McKinsey est ce qu'il y a de plus proche du monde académique, en fait, sans l'être, hein, tout un tas de compagnies privées. Dans le sens où on est entouré de gens excessivement brillants qui sont allés dans les plus grandes écoles qui existent. Donc, ils ont un bagage intellectuel, philosophique, de raisonnement super avancé. Et grosso modo, on est déployé sur des problèmes relativement complexes où les solutions ne sont pas triviales. Et quand on met tous ces ingrédients-là ensemble, on se développe super rapidement, entre autres en étant entouré par les pairs. Fait que chez McKinsey, à travers mes années, j'ai fait beaucoup de travail en opération, qui était ma pratique principale, mais j'ai fait des jolis travaux au niveau très politique des fois, des trucs au niveau de la finance et d'être exposé à toutes ces industries-là avec 200-300 personnes qui sont tous très accomplies et intellectuellement curieuses, on se développe très, très rapidement et on développe une capacité à gérer de l'ambiguïté qui est phénoménale. Tu sais, dans un monde comme GE, tout est très structuré. On avait même des sayings où on dirait « process stronger than people ». On voulait s'assurer que quand on rajoute un humain dans la machine, il ne peut pas briser ce qu'on a pris des années à construire. Chez McKinsey, c'est un peu l'inverse. « People stronger than process ». Il y a beaucoup de processus, mais à la fin des temps, on craque des problèmes intellectuels relativement complexes et c'est l'intellect qui gagne. Et après 5 ans chez McKinsey, dans des situations toutes les plus ambiguës les unes des autres, on devient très confortable à ajouter de la valeur dans un monde ambigu, à structurer des environnements complètement non structurés pour que les humains, par la suite, qui opèrent dans ces environnements-là puissent être efficaces. Puis écoute, ça a été fabuleux comme expérience aussi. Puis encore là, Musk, qui nous sert très bien en start-up, où on démarre avec une page blanche, tout est à structurer, tout est ambigu, et on doit bâtir quelque chose qui éventuellement crée de la valeur. Fait que ça, combiner GE et McKinsey, c'est on a un bagage d'outils complet, tant pour gérer de l'exécution et pour faire de la stratégie. Voilà.
Tu fais quelques années là-bas, mais finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi de continuer à grandir dans cette organisation-là sur le long terme, te voir partenaire chez McKinsey. C'était pas nécessairement ton objectif. Mais d'un autre côté, de ce que j'ai été capable de comprendre, c'est que tu avais jamais pensé te lancer en affaires avant tout ça. C'était pas nécessairement dans tes objectifs ou dans tes rêves. Donc, comment cette réflexion-là, ultimement, de quitter McKinsey et de lancer Venture, parce que ça a été ton emploi par la suite, comment tout ça s'est mis en place?
Ça, c'est drôle. Hein? Au Québec, le nombre d'opportunités est relativement de carrière relativement restreint. Et moi, j'avais le désir profond de rester au Québec. Chez McKinsey, après quelques années, la pensée de quitter la firme revient à tous et chacun à travers sa carrière, c'est normal parce que c'est un environnement très difficile en termes de performance qui est demandé et éventuellement, on veut passer à autre chose. J'ai essayé de quitter McKinsey, je pense, 3 fois à travers mes années là-bas. À chaque fois, j'ai exploré le marché québécois et j'ai rien trouvé qui était à ma hauteur, mais par rapport au poste que j'aurais pu ou la mission des entreprises qui étaient là, qui pouvaient me passionner par rapport au salaire que j'aurais eu, le type de défi que j'aurais eu, ainsi de suite. Et donc, le choix logique de bâtir ma propre entreprise, selon moi, était tout naturel d'une certaine façon. Ceci étant, à chaque année additionnelle où je suis resté à la firme, j'étais toujours très content de voir à quel point je m'étais développé dans l'année suivante. C'est never really feels good until you look backward. Dans l'année, dans les projets, c'est difficile. Les clients sont demandants avec raison. Et à la fin de l'année, même si on avait voulu quitter durant l'année, on se rendait quand même compte qu'on s'était développé comme leader et qu'on avait plus d'outils dans son sac. Ceci étant, mon choix de quitter était basé sur 3 tests. Certains commencent à m'en parler, fait que je les répète. J'avais 3 tests philosophiques. Le premier, c'est si je gagnais le même montant d'argent, est-ce que je serais ici ce matin? Et la réponse pour moi était non. Chez McKinsey, on est très, très bien payé. Mais ceci étant, la vie est assez courte. Et money is not everything. Éventuellement, quand on se rappelle rapidement que si je suis un peu ici à cause de l'argent, ça devient un peu irritant sur le psyché, si je peux me permettre. Là. Fait pour moi, c'était clair que l'argent à Londres n'allait pas me garder chez McKinsey. Mon deuxième test, c'est un peu plus intense, celui-là. If I was to die today, would I be proud of myself? La réponse pour moi était non. Chez McKinsey, on travaille avec des gens fabuleux, avec des clients fabuleux, des problèmes super intéressants, mais on reste le musicien qui accorde son violon versus le musicien qui en joue. Et il n'y a pas de test plus difficile pour un leader que d'aller opérer une entreprise at scale et où l'intellectuel alone ne peut pas te faire en sorte que tu vas réussir. Ça prend vraiment multi-outils. Fait que bref, c'était mon deuxième test. Troisième test, am I in the right dog race? McKinsey, c'est un dog race contre soi-même, en fait. Et la finalité, c'est de devenir partner. Si j'avais voulu rester chez McKinsey, il y a des partenaires avec qui j'ai travaillé qui définissent le symbole ultime du consultant, qui sont à la bonne place, qui ont les bonnes valeurs. Et si jamais, comme entreprise, j'engagerais McKinsey, c'est avec ces partenaires-là que je voudrais travailler. Ceci étant, pour moi, c'était pas un objectif de carrière, c'est pas une position que je valorisais ou laquelle j'attribuais de la valeur. Peut-être que ça venait de mes racines de GE, tout ça, mais bref, pour moi, le dog race que représentait McKinsey de travailler 80 à 100 heures semaine à toutes les semaines, d'être toujours dans l'avion, amenait pas une finalité que je valorisais. Ça me dérange pas de faire ce genre de 10 heures-là, mais faut que ça amène à une finalité qui me plaît, voilà.
Donc, c'est assez intéressant parce que tu es très cartésien dans ta réflexion et par la suite, quand cette réflexion-là est terminée, comment la deuxième réflexion s'enclenche, celle de la création de Vention?
Ouais, fait que Vention, écoute, c'est une idée qui a émergé en 2014 et j'ai commencé Vention en 2016. Fait qu'il y a 1 an et demi environ entre l'idée initiale et le saut. Vention a germé dans ma tête lorsque je me suis rendu compte que c'était possible de faire du 3D de grade d'ingénierie dans le browser web. Ça, c'est possible depuis environ 2013-2014. Moi, toute ma carrière, même avant ça, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 11 ans, je suis un passionné fini de développement de produits. Et donc, tous les logiciels de conception 3D ont été installés sur mon ordinateur depuis j'ai environ 17 ans. SolidWorks, CATIA, ProEngineer, je les connaissais tous de fond en comble et je suis resté passionné par cette industrie-là où on crée des nouvelles choses. Et en 2013-2014, possible maintenant de passer dans le cloud pour faire ça. Et aussitôt que ça, c'est possible, le workflow que Vention a créé, le workflow digital où on conçoit dans le browser, on simule dans le browser, on commande dans le browser, devient possible. Et donc, tous les produits que j'ai créés dans ma carrière enseignante, même avant même GE, lorsque j'étais dans le monde des machine shops et des intégrateurs du Québec, entre environ 19 ans jusqu'à 21 ans, 22 ans, tous les projets que j'avais faits en mode traditionnel étaient maintenant possibles en mode digital, puis ça coupait le temps de cycle par environ 40%. Et ça, c'est possible depuis 2014. Et je me suis dit, écoute, il y a énormément de valeur là-dedans. Aux États-Unis, à Londres, il y a 400 000 personnes qui conçoivent des machines. Le marché de l'automatisation industrielle, c'est 180 milliards. Et si je suis capable de faire basculer cette industrie-là d'un monde très expert-driven, un monde démocratisé, en amenant tout ça dans le browser, en ayant un workflow digital où on crée quelque chose de fabuleux, Ça s'étend en 2014, lorsque j'ai l'idée, je suis chez McKinsey, dans la fenêtre d'élection pour devenir associate partner. Et donc, l'idée prend un peu, ça va dans mon stationnement, si je peux me permettre. J'ai accompli mon dernier milestone chez McKinsey de me faire désigner comme associate partner et par la suite, j'ai donné ma démission. Ceci étant, chez McKinsey, on sert des exécutifs qui ont tous des gros agendas et plus on progresse chez McKinsey, plus les exécutifs veulent travailler avec toi. Et donc, ils signent un projet avec Étienne ou avec Antoine. Ils signent pas un projet avec McKinsey. Et donc, c'est super important pour moi de livrer tous mes engagements. Et ça, ça l'a pris 6 mois. Fait que j'ai terminé tous les projets pour lesquels je m'étais entendu avec les exécutifs à livrer avec eux. Et tout ça m'a amené à, grosso modo, l'été 2016 où je me suis retrouvé plus de cravate, plus de soute dans une petite suite d'environ 400 pieds carrés, pas de fenêtre, pas d'air climatisé, à commander des vis sur McMaster. Et mes collègues de McKinsey se demandaient bien ce que j'avais fait avec ma carrière entre le monde des business class en être promené dans les plus beaux hôtels, un monde où j'ai plus de salaire, puis j'ai fait un boulot que je faisais à peine quand je venais juste de sortir de l'école. Voilà.
Bon, c'est la réalité de tout fondateur de start-up. On peut voir également que quand tu as lancé Vention, je sais pas si ça s'est fait au départ, et c'est peut-être là ici que tu pourras nous éclairer, il y a un cofondateur dans cette histoire-là.
Absolument.
C'est ton partner Max Windisch. Est-ce que cet ajout, on pourrait dire, de Max s'est fait plusieurs mois, plusieurs années après le lancement de Vention? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Comment cette rencontre s'est faite?
Écoute, Max, si ce n'était pas de la somme de Étienne et Max, Vention n'existerait pas. Il y avait vraiment besoin des deux côtés pour que Vention fonctionne. J'ai rencontré Max 6 mois après avoir donné ma démission chez McKinsey. Donc, c'est au moment où je terminais mes projets et on était mis en relation par l'intermédiaire d'André Gauthier, qui dirigeait Unity 3D à Montréal. Et ça va assez vite à Montréal faire le tour de ceux qui connaissent le 3D de façon profonde. Hein? Et André Gauthier vient sur ton radar assez rapidement. André, très généreux de sa personne, s'offre pour faire un coffee chat avec moi. Je lui parle de mon projet et il lui dit, évidemment, tu devrais parler à Max. Je rencontre Max à ce moment-là, 2 semaines plus tard, qui, pendant grosso modo une heure, me parle de l'histoire des database structures depuis les années 80. Et je comprends que je deal avec un être humain, un développeur qui est hautement supérieur par rapport à tous les développeurs que j'avais rencontrés dans ma recherche de cofondateur jusqu'à maintenant. Faut comprendre, Max, c'est un érudit. Hein? Max, c'est un mathématicien, un philosophe. Il a été admis en médecine, bien qu'il soit pas allé. Il code depuis 13 ans. A fait l'Université de Montréal en musique classique. C'est un cerveau unique. C'est 1% de 1%. Et après avoir passé une heure avec lui, je comprenais que la matière grise dans cette personne-là était hautement supérieure à la mienne. Et Max a pris quelques mois pour réfléchir à sa propre trajectoire et on a uni nos destinées. Vous savez, un cofondateur, c'est pas pire qu'un mariage, c'est encore plus profond qu'un mariage. Il faut qu'on passe à travers toutes les chicanes du début en ayant toujours confiance qu'on veut travailler ensemble. Puis Max est encore avec nous aujourd'hui, évidemment, et mon CTO, cofondateur, qui est mon ultimate moral sounding board. Quand j'ai des défis moraux très difficile, c'est avec Max que ça se passe et on a une relation de complicité incroyable.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, le chiffre 7, média au singulier.com /HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et bon, démocratiser une industrie, Étienne, ça coûte beaucoup d'argent. C'est la vision que tu avais dès le départ. Tu voulais faire des choses grandioses. Est-ce que jour 1 ou peut-être jour 30 ou peut-être après 6 mois, tu t'es dit que tu n'avais pas le choix d'aller chercher beaucoup de capital pour accomplir cette vision-là? Parce qu'on s'entend, c'est un gros changement, c'est des gros, c'est un gros projet, une grande vision que tu avais à l'époque qui s'est heureusement matérialisée aujourd'hui. Comment cette vision-là, cette réflexion autour du financement se fait de votre côté? Parce que là, si je me trompe pas, au moment où on se parle, à ce jour, c'est plus de 150 millions de dollars US que vous avez levé. Donc, j'imagine qu'il y avait quand même une certaine portion que vous aviez besoin dès le départ, là.
Évidemment, on bâtit pas le prochain géant de l'automatisation industrielle avec 3-4 millions. Ça va prendre encore beaucoup, beaucoup plus pour créer le prochain géant. Il faut comprendre le marché. Le marché, c'est 180 milliards. Le joueur 1 et 2 font 15 et 7 milliards respectivement dans cette industrie-là. Le marché va se rendre à 400 milliards par 2030, principalement par des entreprises qui n'ont pas commencé à s'automatiser, qui vont débuter de le faire. C'est un énorme carré de sable. Et on rentre pas dans ce carré de sable-là avec un prêt chez Desjardins. Là. Ça marche juste. Par contre, ça se fait par étapes tout de même. Moi, quand j'ai démarré Vention, j'ai mis environ 30 000 de mes économies personnelles dans le fonds compte de banque. Puis je me suis dit, grosso modo, après 6 mois, si ça marche pas, je vais aller me trouver une vraie job. Après 6 mois, on avait levé un premier million de dollars avec des investisseurs de Boston, investisseurs de Montréal. Et grosso modo, sur une présentation PowerPoint où les gens, grosso modo, ont accepté d'investir dans moi et Max. Ça nous donnait environ un an et demi là, d'air d'aller. Et après un an et demi, on avait déjà des clients, on avait déjà un premier produit. Et donc, ça ouvre la porte à la deuxième tranche et par la suite à la troisième tranche. On était très délibérés de pas mettre notre ego dans le chemin des bonnes décisions d'affaires, dans le sens qu'on a levé des rondes ajustées à notre niveau de maturité à chaque fois. Et conséquemment, aujourd'hui, Max et moi, on détient une belle partie de l'entreprise. Nos investisseurs ont également, qui nous ont suivis depuis le début, ont fait des super beaux retours, mais on n'a pas mis notre ego dans la taille des rondes et ainsi de suite. Plutôt le contraire, on a essayé de garder les rondes le plus petites possible à chaque fois, de lever plus souvent, ce qui maximise la valeur pour les investisseurs actuels et ainsi de suite.
Quand tu parles d'ego ici, tu dis... Tu fais référence surtout à dire, on a levé 200 ou 300 millions de dollars après une ronde. Tu voulais y aller une étape à la fois. C'est ça un petit peu que tu es en train de
dire.
Très
délibéré. Une étape à la fois. On crée la valeur, on la prouve et on va la valider au marché. On crée la valeur, on la prouve, on va la valider au marché. Fait que Vention, on est rendu à 4 rondes de financement, mais à chaque fois, ça s'est fait avec des gains en valeur et des gains en multiples. Et donc, évidemment, on a des rondes qui sont positives, mais le multiple à chaque ronde continue d'augmenter parce que le modèle d'affaires devient de plus en plus efficace, prouvé, et ainsi de suite.
Et on va en parler du modèle d'affaires parce que je pense que c'est une chose que tu comprends très bien, les différents modèles d'affaires que vous avez. Mais j'aurais une question pour toi, Étienne, avant de passer à ce sujet. J'aimerais revenir au volet du financement. J'ai entendu écouter beaucoup de podcasts récemment d'un certain Mark Lowry. Mark Lowry qui a bâti des entreprises totalement formidables. Je pense qu'il est rendu à deux ou trois sorties des billion dollar exits qu'il a été capable de faire. Et lui challenge un petit peu cette vision-là aujourd'hui d'y aller une étape à la fois. Il dit, quand tu as une idée grandiose, commence avec un 5-10 millions, et pardonnez-moi l'anglicisme, en pre-seed, et par la suite, bâtis ta vision et va chercher les plus grands talents de ce monde pour bâtir une équipe formidable. La question que j'aurais pour toi ici est la suivante. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, à la vitesse que vous êtes allé, est-ce que tu referais la même chose ou tu irais peut-être un petit peu plus vite au départ?
C'est sûr que j'irais plus vite au départ. On acquiert une maturité puis une expérience. Refaire le fin... Aujourd'hui, je ferais une deuxième entreprise. J'aurais pas vraiment de doute que ça va valoir une somme assez valable dans quelques années. Contrairement à ce que j'avais comme certitude quand j'ai débuté Vention. Par contre, il y a plein d'études qui prouvent que si tu enlèves l'effet repeat founder, la quantité d'argent que tu lèves et le succès à atteindre n'est pas corrélé. Et malheureusement, lorsque les gens lèvent beaucoup, ils dépensent plus et on dépense pour les mauvaises choses. On dépense en party, on dépense en office space, on dépense en salaire pour des gens qui méritent pas ces salaires-là parce qu'on pense qu'on a beaucoup de capitaux et on investit seulement de la même façon. Avoir une certaine restraint au niveau du capital force les bonnes décisions, aiguise le jugement et force de faire les bonnes priorisations dans le modèle d'affaires. Malheureusement, à chaque fois que je vois ces études-là, si on neutralise pour l'effet repeat founder, il n'y a pas de corrélation entre la taille du capital V et le succès.
Très intéressant. Parlons maintenant un petit peu de croissance, parce que la croissance est assez rapide chez Vention. Comparativement à vos compétiteurs, Étienne, vous avez décidé de prendre une approche qui est davantage orientée vers la masse. On utilise en anglais le terme bottom-up et j'ai l'impression que vos compétiteurs sont davantage dans une approche top-down, c'est-à-dire qu'on va parler directement aux exécutifs et on espère que la technologie sera adoptée. Vous avez pris le chemin inverse. Peux-tu nous parler un petit peu de cette approche-là et comment tout ça s'est mis en place et quels en sont les résultats aujourd'hui?
Ouais, absolument. Et tu touches mon sujet préféré qui est business model engineering, qui est un domaine de la science de business qui est peu ou pas développé et malheureusement encore moins au Québec. On a des super bons ingénieurs, mais on fait pas beaucoup de travaux dans business model engineering. Et fait que je vais en parler un peu. Écoute, aujourd'hui, si tu veux croître très, très, très rapidement, d'avoir des modèles bottom-up fait en sorte qu'on peut aller chercher l'utilisateur très rapidement. Et on est dans un monde où on démocratise. L'automatisation industrielle, traditionnellement, est très, comme tu mentionnes, top-down. Parce qu'on parle d'investissements en capitaux très élevés. Ça coûte cher faire l'automatisation industrielle. Et ça coûte cher pour deux raisons. Un, les prix des composantes sont chers, mais j'ai également besoin d'un intégrateur système qui va concevoir, assembler ces composantes-là dans un tout, une machine automatisée, un petit robot qui fonctionne. Et donc, je me retrouve avec un projet qui va coûter facilement 500 000 à plusieurs millions de dollars où la moitié des coûts sont des coûts humains d'ingénieurs qui ont réalisé le projet et l'autre moitié des coûts va être la tech. Avec Vention, on enlève la partie des coûts qui sont humains en donnant les outils directement aux praticiens dans les usines. En réduisant les coûts, ça nous permet d'aller vers un modèle d'affaires beaucoup plus bottom-up et donc self-serve, libre-service. Et on a démarré Vention vraiment comme plateforme où on donne les outils directement aux praticiens. Pour que ce modèle d'affaires-là marche, il faut qu'il soit simple d'utilisation. Fait qu'on pour que les gens puissent naviguer par eux-mêmes le processus. Pour aller chercher la croissance en automatisation industrielle, et sachez, en 2016, lorsqu'on a commencé, aucun start-up en robotique ou en automatisation industrielle avait été commercially successful. Il y avait eu de la belle technologie développée, mais pas encore de succès comme on a vu, par exemple, dans le mode des transports avec Uber ou dans la restauration. Fait qu'on a décidé avec un modèle bottom-up où on permet aux utilisateurs de naviguer le chemin par eux-mêmes, de commander par eux-mêmes. Et on a pris l'hypothèse, quelques hypothèses là-dedans, qu'on allait réussir à simplifier l'expérience assez en gérant à la fois le hardware et le software. Souvent, je compare Vention à un modèle Apple, ce qu'on appelle une architecture intégrale. J'amène une analogie ici. Quand j'étais adolescent, la musique, c'était gratuit. Je pouvais avoir la discographie de Radiohead à peu près en 7 minutes sur Torrent ou Napster. Aujourd'hui, on paye $1 par chanson. Comment Apple a réussi ce tour de magie-là de transformer une industrie entière de free à paying en amenant à la fois le iPod et le iTunes Store? Ou ma mère qui peut pas consommer des torrents, maintenant aujourd'hui peut consommer évidemment de la chanson. Quand on bascule une industrie pour des experts à démocratiser, faut souvent gérer les deux, le hardware et le software. Et on a pris cette décision-là à la base du modèle d'affaires pour faire en sorte justement que quand je conçois dans mon environnement 3D, je travaille avec des composantes qui sont faites pour aller les unes avec les autres. If they're available, they're compatible. Et ça faisait en sorte justement qu'on simplifie énormément le travail manuel nécessaire. Et donc voilà. Fait qu'on se retrouve avec un modèle bottom-up. Bottom-up étant beaucoup plus haute vélocité, fait en sorte que les coûts de vente sont plus faibles également. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager des vendeurs, je peux faire du performance marketing et donc beaucoup plus d'effet d'échelle dans le modèle d'affaires que dans le modèle plus traditionnel. Aujourd'hui, la majorité des startups qui vont très vite utilisent ce modèle-là, bottom-up ou product-led growth, pour être un synonyme utilisé à certaines sources. Voilà.
Et est-ce qu'à ça, tu ajoutes une équipe de vente qui continuellement va aller peut-être prospecter des exécutifs? Parce que souvent, ce que je me suis rendu compte en discutant avec des gens sur le podcast et également à l'intérieur de mes organisations, c'est que l'approche bottom-up, pour commencer, elle est fabuleuse. Exact. Et par la suite, si tu es capable d'ajouter un levier avec de la prospection sur des exécutifs, les discussions sont excessivement faciles à avoir parce qu'ils connaissent déjà la technologie ou encore l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place de votre côté?
Exact. Fait que à mesure qu'on bâtit un go-to-market engine, on rajoute des motions. Et nous, on a commencé bottom-up. Et au début de Vention, on avait 70 pièces Lego. Des pièces Lego industrielles, évidemment, mais les gens concevaient en ligne avec un portfolio de pièces Lego assez limité. Et donc, les machines étaient peu chères. Aujourd'hui, le panier d'achat moyen a augmenté de presque 4 fois depuis le début de Vention. Parce que la plateforme est capable de... permet aux utilisateurs de faire des trucs beaucoup plus complexes. Des cellules robots beaucoup plus avancées avec plus de sensors, de moteurs, de convoyeurs, et ainsi de suite qu'on pouvait le faire dans les premières années de la plateforme. Et donc, le panier d'achat augmente et plus le niveau d'interlocuteur du côté client augmente également. Au début, on gérait uniquement des ingénieurs. Maintenant, on a également des clients qui sont des VP, des managers, des directeurs, ainsi de suite. Et donc, on ajoute des motions. Aujourd'hui, Vention, on a une équipe de vente assez élaborée qui est à Boston, Berlin, Montréal. On a également une équipe de channel où on a des intégrateurs qui utilisent la plateforme, capturent les propres bénéfices de la plateforme et servent leurs propres clients en mode plus traditionnel. On en a près d'une centaine aujourd'hui à travers le monde qui utilisent la plateforme. Et ce genre de channel-là se greffe jusqu'à mesure qu'on bâtit l'entreprise. Voilà. Mais notre go-to-market PLG bottom-up demeure notre go-to-market principal. C'est plus de 70% de nos revenus qui sont générés de façon bottom-up.
Et bon, le temps file, mais je veux absolument parler avec toi des modèles d'affaires parce que vous avez des modèles d'affaires quand même assez intéressants, autant au niveau du hardware que du software. Et tu me disais même dans un entretien préalable, Antoine, on pourrait arrêter notre acquisition aujourd'hui et tout de même continuer à croître grâce aux revenus reoccurring qu'on est capable d'avoir dans l'organisation. Peux-tu élaborer un petit peu sur ces modèles-là?
Ouais, en fait, Vention est un peu le meilleur des deux mondes. On a un comportement utilisateur qui est très SaaS-like, donc avec un bon niveau d'engagement, un bon niveau de repeat, mais on a un basket size et une croissance des transactions qui est e-commerce-like, qui est généralement plus rapide parce que justement, c'est décentralisé, c'est bottom-up. Ça fait en sorte, lorsqu'on combine ces deux côtés-là du modèle d'affaires, le modèle d'affaires, c'est unique en passant. Il y a peu de compagnies qui ont allié d'un côté l'aspect plus e-commerce transactionnel et de l'autre côté SaaS reoccurring et ainsi de suite. On combine les deux, on se retrouve avec des métriques de net dollar retention, de net transaction retention assez fabuleuses. En fait, nettement supérieures à des startups SaaS conventionnelles qui vont avoir des net dollar retention de 1.2, 1.3 ainsi de suite. Et il y a plusieurs effets là-dedans. On a le comportement utilisateur qui est similaire à celui d'un SaaS, mais également mes utilisateurs bottom-up qui maîtrisent de plus en plus la plateforme à chaque année font des machines de plus en plus complexes. Et donc, ce qui se passe, c'est que mon panier d'achat moyen continue d'augmenter, ce qui augmente mon net dollar retention, parce que Vention est une plateforme de création. Plus je suis proficient avec l'outil, plus je crée des choses complexes, plus mon panier d'achat augmente et plus je deviens self-serve, donc mon cost to serve diminue en même temps. Et ça, c'est pas arrivé par magie. On s'en doutait. On avait mis des hypothèses sur la table dès le départ que si on réussit à bâtir un outil de conception qui marche, que les utilisateurs peuvent s'approprier. Et par la suite, on a cet effet-là où à chaque année, mes cohortes de clients me coûtent de moins en moins cher à servir parce qu'ils deviennent de plus en plus libre-service. Et il y a un dernier truc assez intéressant dans le modèle d'affaires. Vention est une plateforme de création. Et lorsque je crée un produit, une cellule robot, le produit en soi n'est pas Vention et la cellule robot ou l'équipement industriel ou automatisé que j'ai créé. Et ça, comme utilisateur, comme créateur, ça me rend fier. Et donc, j'en parle à mes collègues de travail. Dans l'usine, je mets mon nom sur la machine et par défaut, ça crée un go-to-market, ce qu'on appelle customer-led growth. Au lieu que je dépense en coût marketing pour chaque prochain lead que je dois mettre dans la plateforme, mes utilisateurs font un bon boulot parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils ont créé sur la plateforme. Fait que cette motion-là de customer-led growth est pas possible lorsqu'on n'a pas une plateforme de création. Prenons Slack, par exemple. On crée rien sur Slack. Je vais pas te montrer l'échange de messages que j'ai eu avec mon cofondateur. Il n'y a rien à montrer là-dedans. T'sais, je peux te parler que j'utilise Slack, mais ça reste assez limité. Versus, je crée quelque chose de fabuleux qui est physique, qui est dans le milieu de l'usine, qui a une image de marque incroyable. Mention, toutes nos pièces sont bleues. Nos machines sont très, très jolies, très esthétiques. Les gens en parlent et soudainement, chez un client où j'avais deux utilisateurs, je me retrouve avec 8 utilisateurs, 10 utilisateurs, 20 utilisateurs. Et tranquillement, on devient l'outil principal dans le coffre à outils des gens qui font l'automatisation industrielle.
Fantastique. C'est assez fabuleux tout ça. Bon, à quoi ça ressemble un peu le futur de Vention? Vous êtes 380 employés au moment où on se parle. Vous avez levé du capital quand même assez important, 150 millions de dollars américains, on l'a mentionné. Vous avez une croissance qui va vous amener à près de 100 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. C'est quoi le plan peut-être 2 à 4 ans de l'organisation?
Écoute, on a la chance d'être assis sur un engin fabuleux d'un marché qui est pratiquement illimité et on est en avance sur tous les joueurs possibles dans cette industrie-là. Je pense que à travers notre trajectoire, on a eu certaines offres d'achat, certaines plus formelles que d'autres. Mais c'est assez clair que c'est pas vrai qu'un joueur plus traditionnel dans l'automatisation industrielle va créer plus de valeur à opérer l'entreprise que ce qu'on peut faire avec l'équipe qu'on a assemblée à la vitesse où on peut y aller. On a la chance d'avoir pas un single product company, mais un vrai platform company. Et ça, évidemment, ça permet, si on souhaite, d'avoir une entrée en bourse, si on souhaite y aller. Je parle souvent de IPO readiness au lieu de IPO, parce que les marchés publics ont leurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients.
On le voit en ce moment. Exact.
Mais même au-delà de la crise actuelle, le poids constant des investisseurs qui sont orientés court terme force souvent les entreprises à prendre une multitude de mauvaises décisions. Et il y a des avantages incroyables à être public, mais également des inconvénients. La décision d'aller public ou non, c'est une décision qu'on va prendre avec notre conseil d'administration. Ceci étant, je me soucie énormément de s'assurer que l'entreprise soit IPO ready. Et donc, ça veut dire qu'on va bâtir la discipline interne, la qualité d'exécutif, la qualité de produit pour être capable d'opérer aux standards du marché. Et comme on s'y prend tellement à l'avance, on a une belle feuille de route de 2 à 3 ans devant nous pour réaliser tout ça. Après ça, la décision de la structure de capitaux d'entreprise, ça sera une décision, pas dire plus triviale, si je peux me permettre, qui sera prise avec le conseil d'amélioration, mais ça ne changera pas nécessairement la quantité de valeur créée. La quantité de valeur créée n'est pas dans la structure des capitaux. La valeur créée d'une entreprise est avec les produits, est avec le modèle d'affaires, avec l'équipe qu'on a assemblée. C'est là que la valeur se crée. C'est pas avec la structure de capital qu'on met sur le balance sheet. Je me soucie énormément qu'on soit IPO ready, mais je me soucie encore plus qu'on prenne les bonnes décisions pour créer de la valeur à long terme.
Assez fascinant tout ça. Je terminerai des petites questions personnelles. Est-ce que tu es un amateur de lecture d'affaires, Étienne? Est-ce qu'il y a certains livres qui ont marqué ton imaginaire?
Écoute, je lis toujours 1 à 2 livres en parallèle. Mes derniers livres de l'année, c'est Amazon Unbound. Très intéressant pour comprendre.
Mon livre préféré de l'année.
Ah ouais, bon, j'ai bien aimé pour comprendre à quel point on peut être méthodique et rigoureux dans la façon dont on fait des expériences. Et souvent, ceux qui, en affaires, souvent ceux qui disent qu'ils ont des expériences ont besoin d'un environnement un peu non structuré et scrappy. Et je pense que le livre montre qu'il est possible de faire des expériences avec un environnement hyper rigoureux et structuré. Fait que j'ai bien aimé ce livre-là. Deuxième livre, pas un grand ouvrage de littérature, mais qui, pour le développement personnel, CEO Excellence. C'est drôle, en startup, plus l'entreprise grossit, plus il faut, comme humain, scaler à la même vitesse de l'entreprise, sinon on se désintermédie soi-même. Et important pour moi de m'assurer que je peux être le CEO qui gère une entreprise de 40, 50 millions de dollars, mais également une entreprise de plusieurs milliards de dollars de revenus. Et je dois continuer d'investir dans moi si je veux scaler. Puis plus récemment, écoute, mon cofondateur m'a suggéré de lire un petit ouvrage sur Simon Veil en philosophie des mythiques. Et bon, court ouvrage sur un que je suis en train de lire, plus intéressant, qui force à maintenir la réflexion critique dans l'univers très pragmatique et un peu froid des décisions d'affaires. Voilà.
CEO Excellence, c'est tes anciens collègues de chez McKinsey qui ont écrit ça en plus de ça.
Fait, encore, pas nécessairement un grand ouvrage de littérature, mais une bonne façon de bien comprendre le rôle et l'évolution du rôle de CEO, de start-up un peu scrappy, non structuré, à grosse entreprise qui doit gérer des milliers de personnes à travers plusieurs géographies, plusieurs fonctions et comment ces organisations-là peuvent rester, grosso modo, efficaces. Fait, assez bon ouvrage sur ça, en fait.
Je l'ai terminé la semaine dernière. C'est un excellent livre également pour les gens qui nous écoutent. Podcast, Étienne. Est-ce que tu en écoutes quelques-uns?
Malheureusement, non. J'écoute. Non. Je suis un coureur. Je cours énormément et j'écoute beaucoup de musique. Et de façon intéressante, j'écoute la même musique que j'écoutais lorsque j'étais adolescent. Et donc, beaucoup de punk rock pour moi. Fait que ces temps-ci, Trice, Front Bottom, un peu de Millen Collins, un peu encore de NoFX, Hot Mulligan, et voilà.
Et je terminerai. Routine, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Assez prédictif. Ma semaine commence le dimanche soir vers 8 heures. Je travaille tous les soirs jusqu'à minuit. Je me lève vers 7 heures le matin. Café avec ma conjointe. Je suis au boulot vers 8h30 généralement. Je vais courir 2 fois semaine. La fin de semaine, 2 fois aussi, donc 4 fois semaine. J'arrive à la maison vers 6 heures. 2 heures de pause, 8 heures à minuit après, ainsi de suite. Fait que c'est la semaine, le vendredi soir, je termine vers 6 heures. Fait que voilà. La fin de semaine, un peu de courriel le samedi, Dimanche, ma semaine reprend 8 heures. Fait que c'est ma semaine typique depuis des années.
Donc, tu travailles jusqu'à 6 et tu retravailles de 8 à minuit continuellement à chaque jour de semaine, sauf le vendredi.
À tous les soirs, voilà. Vendredi, samedi.
Bon. On voit que le succès, ça se construit avec une discipline rigoureuse et j'imagine que ça doit venir de GE.
Ça vient de GE. Nobody's changing the world working 40 hours a week.
C'est pas une... Elon Musk, ça.
Voilà, exactement. Et c'est malheureusement tellement vrai. Et c'est encore plus vrai en startup où le poids du CEO, plus l'entreprise est petite, est disproportionnel et plus l'entreprise devient gros, l'effet du CEO est un peu dilué. Mais le d'être celui qui donne le drumbeat définit le pace de l'organisation et de le dire, c'est une chose, de le faire et de laisser les autres observer, c'est beaucoup plus puissant comme style de leadership.
J'adore ce que j'entends. Je suis très inspiré à t'écouter aujourd'hui, Étienne. Félicitations pour ce beau succès. Si on va en apprendre sur vous, peut-être que vous avez des postes disponibles ou peut-être même qu'il y a des gens qui pourraient être des clients potentiels qui nous écoutent aujourd'hui. C'est où l'endroit le plus facile pour vous rejoindre?
Écoute, sur notre site web, on a 30 postes ouverts. Il y en a environ une cinquantaine qui s'en viennent aux alentours de novembre. Donc, il y a plein d'opportunités pour les gens qui sont passionnés par la technologie industrielle, robotique, ainsi de suite. Puis, écoute, pour les clients, la meilleure façon, c'est d'aller sur notre site web, évidemment. Et de là, si vous signez up sur la plateforme, vous allez avoir accès à une multitude d'informations additionnelles et également accès à des conseillers pour réfléchir à vos projets d'automatisation industrielle. Voilà.
Fantastique. Étienne Lacroix, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.